Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Carré, un podcast d'Horizon Marine, la chaîne des podcasts de la mer, du fait maritime et de ses acteurs. Dans une brume épaisse et silencieuse, une forme mystique fend les eaux noires d'un matin sans soleil. Son imposante silhouette sombre, à peine visible, offre une belle vue à quelques fantômes postés à son sommet. Elle scrute au loin un phare à peine perceptible du fait de la météo. La scène semble être figée dans le temps, un léviathan noir qui sort de l'eau avec des statues humaines observant un gardien ancestral. Décidément, le photographe a bien fait son travail car oui, ce que je viens de décrire, c'est un des nombreux clichés de sous-marins nucléaires réalisés par notre invité du jour. Habitué des embruns et de la vie embarquée, ce passionné de la mer a immortalisé dans son viseur une large palette d'images de mer, de la mythique frégate l'Hermione en passant par les mastodontes de la Marine nationale à l'instar du porte-avions Charles de Gaulle et des sous-marins nucléaires de l'île Longue, sans oublier aussi les nombreuses expositions itinérantes auxquelles il a participé au cours des 10 dernières années. La diversité de ses prises de vue intrigue, de même que ses différents métiers. Notre invité est en effet photographe, peintre officiel de la marine et réserviste citoyen. Cette grande variété d'emplois lui permet d'être souvent présent en mer pour réaliser ses photographies. Alors justement, comment en est-il venu à côtoyer les navires de guerre de la marine ? D'où lui est venue sa passion pour la photographie et quels sont les avantages du titre de peintre officiel de la marine? Evan Le Bourdet est dans le carré. Bonjour et bienvenue dans ce podcast.
Bonjour lieutenant.
Alors avant de démarrer, je me permets quand même de rappeler, on sort ce podcast fin juin. Je me permets quand même de rappeler que les inscriptions pour candidater au Salon de la Marine 2026 se terminent en septembre 2025. On va mettre tous les détails pour candidater en description dans cet épisode. Et aussi, vous pourrez retrouver toutes les modalités d'inscription sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Evan Le Bourdet, donc je rappelle, vous êtes peintre officiel de la marine et ce titre vous permet d'être présent en mer pour prendre vos clichés. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, finalement, ce statut un peu particulier de peintre officiel de la marine ?
Alors oui, le statut de peintre officiel de la marine est à la fois un titre prestigieux, mais c'est aussi l'appartenance à un corps particulier, puisque c'est un corps d'artiste. L'amiral Vandier disait qu'il avait à sa main deux armes artistiques. La première, c'était celle des écrivains de marine, et la deuxième, celle des peintres officiels de la marine. C'est un corps séculaire, puisqu'on prête à une ordonnance de Richelieu à la base le début de l'existence de ce corps d'artiste, et officiellement, à l'occasion de la monarchie de Juillet, en 1830, vous avez eu les deux premiers peintres officiels de la marine, que sont Gudin et Crépin, qui ont ouvert le bal, si je puis dire.
Voilà, et ce qu'il faut bien préciser, c'est que donc effectivement il y a eu de Richelieu jusqu'à 1830 une phase un peu de mise en place, enfin une proto en fait idée de ce statut de peintre officiel de la marine, ensuite deux peintres officiels en 1830. Comment est-ce que ensuite tout ceci a évolué? Qu'est-ce qu'ils ont fait les deux premiers justement et quel a été un peu le succès?
Alors, de ma lecture personnelle, qui est tout à fait subjective, il me semble qu'un petit peu avant, et même beaucoup avant, la peinture, donc qui n'était que le seul support artistique avec la littérature pour témoigner, rayonner, montrer ce que pouvaient être ces batailles que les gens qui voyaient parfois, pour certains d'entre eux, pour la dernière fois, la mer pouvaient témoigner. La peinture permettait, au même titre que la littérature, de venir apporter un éclairage sur ces choses-là, à tel point que les gouvernements successifs de la marine ont pu demander à des artistes comme Vernet de pouvoir peindre les arsenaux et de pouvoir montrer un petit peu la puissance du roi de par les mers, etc. L'œuvre qu'il avait entreprise n'a pas été terminée, mais faisait suite à différents courants artistiques, politiques, etc., qui trouvaient en l'art, finalement, une manière assez intelligente et pragmatique de rayonner et de gouverner.
Alors, il y a eu un impact, on imagine bien, sur les populations, c'est-à-dire que ça avait à la fois, ça permettait aussi de convaincre le grand public, mais aussi les puissances voisines.
Alors complètement, si je prends l'exemple qui est le mien, le rayonnement induit par les photographies que je peux produire sert à beaucoup de choses. Déjà à se faire plaisir soi-même, mais ensuite à sensibiliser, à montrer, à faire plaisir. Les gens qui aiment la mer apprécient sans doute les clichés maritimes, donc on est dans l'ordre du plaisir, mais aussi de l'utile, puisque ces clichés, émotion il y a à la découverte de toutes ces images ou de toutes ces œuvres, qu'elles soient peintes, filmées ou sculptées tout simplement, vont avoir un impact finalement qui peut être utile à beaucoup d'œuvres, et notamment des œuvres politiques, pour pouvoir, par exemple, défendre un budget de fonctionnement, étirer la couverture, excusez-moi l'expression, mais vers la marine plutôt que vers une autre arme. Donc c'est effectivement essentiel de ce point de vue-là pour faire comprendre, fédérer, faire passer de l'émotion, parfois même recruter. Le recrutement, on le voit, hein, l'art et le recrutement ont toujours fait bon ménage. Je pense à cette affiche là de l'armée américaine, « I want you », qui est une œuvre peinte. Voilà, donc c'est quelque chose qui fait bon ménage.
Et peut-être une autre utilité, une autre fonction, entre guillemets, de ce statut, c'est aussi la valeur de témoignage historique. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu les peintures des premiers peintres officiels, on aurait peut-être un aperçu un peu moins précis des moyens de l'époque.
Complètement. Alors, au début, quand moi je fais de la photo maritime, je ne le perçois pas forcément. Et quelques années se passent et on se retrouve en face, comme aujourd'hui, d'une photographie où l'on voit l'Hermione qui est bien malade, le Latouche-Tréville qui est une frégate anti-sous-marin de classe Georges Legge qui est aujourd'hui quasiment démantelée, et l'Alouette 3 qui est un aéronef des marins du ciel. Donc ces trois bâtiments ne sont plus aujourd'hui en activité, et donc il y a de cela, en effet, le côté reconstitution historique, de savoir comment ça se passait à ce moment-là, les lumières, les angles, la technique, l'évolution de la navigation, et c'est très intéressant de ce point de vue-là.
Et donc, je le disais, vous êtes justement peintre officiel de la marine, et vous avez parlé de plaisir tout à l'heure, et c'est donc ce que ça vous apporte à titre personnel et professionnel?
Alors effectivement, si on se fait pas plaisir à soi-même, je pense que c'est difficile ensuite de faire prendre du plaisir aux personnes qui découvrent votre œuvre. Le plaisir, c'est le moteur, la passion, c'est peut-être le carburant. Tout ça doit être éminemment transversal. En ce qui me concerne, moi, j'ai trois passions qui m'ont amené, mais on va sans doute en reparler un petit peu après, à cette photo maritime. C'est l'amour d'abord de la mer, ensuite des bateaux et de la photographie. Voilà, c'est vraiment trois domaine passionnel.
Et on viendra vraiment sur les modalités de prise de vue dans quelques instants. J'aimerais quand même qu'on reste sur ce statut de peintre officiel de la marine. Vous êtes photographe au sein de ce statut. Est-ce qu'on peut montrer un peu quels sont les différents corps de métier que désormais ce statut de peintre officiel regroupe?
Alors, encore une fois, là, je vous me prêtez la parole pour répondre sur des choses qui, à mon sens, ne peuvent être que subjectives dans ma prise de parole. Mais oui, la peinture, évidemment, l'aquarelle, qui à un moment a été avant-gardiste dans les arts, la gravure, la sculpture, le cinéma. Jacques Perrin était peintre officiel de la marine. Et quand on regarde son œuvre en tant qu'acteur au départ dans Le Crabe Tambour avec Schoendorfer et de progressivement jusqu'au début des années 2000, le film Océan, ce personnage incarne une certaine forme de maritimité, et à ce titre, c'était une très belle recrue pour le corps des peintres officiels de la marine. Ensuite, s'agissant des photographes, c'est juste énorme, et ça donne le tournis de se dire qu'on fait partie d'une succession de quelques photographes. Je crois que je suis le 6 ou le 7e de 400 ans d'histoire. Alors évidemment, la photographie n'existe pas non plus depuis 400 ans, mais le premier était Jean Dieuzède. Pour les Toulousains, Jean Dieuzède, c'est une star. C'est une star qui a été le premier portraitiste officiel du général de Gaulle à la sortie de la guerre, qui pour moi est une star également, puisqu'il a été le premier à s'intéresser à des choses comme le Queen Mary dans le port de Manhattan, ou éventuellement le phare de Cordouan, donc là où tout le monde s'en fichait. Et ça, c'est très intéressant. Donc la photographie. Et puis plus récemment, moi, j'ai été nommé en 2021, et je suis très fier d'avoir été nommé en même temps que le premier BDaste de l'histoire des peintres officiels de la marine, donc encore une nouvelle technique.
C'est ça, BDaste, créateur de BD.
Voilà, qui s'appelle Emmanuel Lepage, que je salue avec énergie, et beaucoup d'honneur d'avoir été nommé en même temps que lui, parce que tout simplement c'est un artiste hypersensible, extrêmement doué, et où s'arrête la BD, où commence l'œuvre majeure, finalement toutes les trois pages on se pose la question avec Emmanuel.
Mais ce qui est intéressant, c'est que donc est peintre officiel de la marine, entre guillemets, toute personne pouvant créer de l'image ou créer une valeur graphique.
Complètement. À partir du moment où on prête un caractère artistique à une réalisation, qu'elle soit de près ou de loin marine nationale, mais surtout de maritimité française finalement, parce que vous n'avez pas que la marine nationale dans la maritimité française. Nous sommes une grande nation maritime, et cette grande nation, elle comporte la marine marchande, la marine de pêche,
toutes les marines.
La marine à la voile, c'est quand même nous qui avons, toujours été devant, enfin en tout cas depuis Éric Tabarly, nos compétiteurs anglais à la voile, donc prolongeant ainsi un certain nombre de challenges avec nos amis les Britanniques. Mais voilà, donc on a une grande nation maritime et il est important de souligner que à partir du moment où on crée une œuvre de l'esprit, quelle qu'elle soit, bien on est éligible à ce statut de pain de la marine.
Pour illustrer quand même aussi peut-être ce que ça vous a apporté à titre personnel, ce statut, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça vous a apporté peut-être un réseau, ça vous... des contacts
Alors la réponse communément admise et que j'ai entendue à nombreuses reprises dans la voix des peintres officiels de la marine, c'est de pouvoir embarquer. Alors moi je suis un cas un petit peu particulier parce que j'embarquais déjà beaucoup, j'avais accès au sujet tout simplement parce que les commandants d'unité ou dirigeants de la marine ou parfois de simples membres d'équipage remontaient l'idée de me faire embarquer ou en tout cas de présenter leur sujet à mes appareils photographiques. Donc ça a été un... Je ne l'ai pas compris tout de suite, mais c'était assez singulier. Et effectivement, de ce point de vue-là, ce n'est pas la réponse que j'apporterai. C'est un rêve que j'ai croisé il y a 12-13 ans maintenant en comprenant que les émotions que j'avais découvertes au contact de différentes œuvres. Alors les premières, c'était les œuvres de Marin-Marie sur l'archipel de Chausey où j'allais quand j'étais adolescent. Mais d'abord Marin-Marie, ensuite c'était cette photographie de Philippe Plisson du canot de sauvetage de François Morin, qui aujourd'hui est un patrimoine historique, enfin un patrimoine classé monument historique. Et cette photo, elle est prise sans doute d'hélicoptère. On est au large de Ouessant, là, au niveau des Pierres Vertes. Le bateau est dans des vagues gigantesque et donc j'ai découvert que ce monsieur, Philippe Plisson, était peintre officiel de la marine, et puis ensuite Jacques Perrin, et on se dit mais c'est quoi ces peintres officiels de la marine, et on creuse un petit peu le sujet et on se rend compte que c'est une formidable voie d'accès à l'art maritime. Et petit à petit, l'ambition étant sans doute un vilain défaut, c'est de se dire mais, et pourquoi pas moi. Et donc
c'est
ce rêve,
vous avez candidaté du coup.
Exactement, ce rêve est venu devenu presque une obsession, et on a beaucoup beaucoup travaillé pour cela. Quand je dis on, parce que c'est vraiment un travail familial. Derrière, il y a un vrai projet familial, un soutien. On fait rien sans une épouse en guise de commandant en second, et voire même de commandant ou d'amiral tout court. Et une fois qu'on a dit ça, il faut essayer, et on essaye d'être sélectionné déjà au Salon de la Marine, que je définis comme étant l'un des derniers salons étatiques régaliens permettant d'être exposé. Et si vous arrivez à passer ce stade de la sélection, que vous êtes exposé parmi la trentaine d'artistes à composer l'exposition, c'est déjà une sacrée fierté, puisque vous êtes exposé dans des endroits assez incroyables. Alors, en ce qui me concerne, c'était la médiathèque des Capucins, sur le plateau des Capucins, du coup, à Brest, un lieu chargé d'histoire. Mais en règle générale, et depuis bien longtemps, au musée de la Marine, au Trocadéro, à Paris. Et donc, le fait de pouvoir exposer comme cela vous donne déjà... la possibilité de faire valoir cela à un commandant de la marine nationale. Écoutez, commandant, moi je suis pas peintre de la marine, en revanche j'ai été sélectionné à concourir, et ça veut déjà dire beaucoup de choses. Et les commandants sont quand même généralement bien cultivés, à l'écoute, et ont cette culture en fait, et donc comprennent que c'est intéressant de s'intéresser à cet artiste et de le faire embarquer pour qu'il puisse progresser et peut-être quelques années plus tard réessayer et devenir peintre officiel de la marine.
Et donc là vous avez parlé du processus pour candidater au Salon de la Marine, est-ce qu'on peut aussi parler du processus d'inscription pour devenir peintre officiel de la marine?
Alors le processus d'inscription, je le connais par cœur puisque j'ai essayé en 2014 pour la première fois pour le salon. Donc ça devait être le 44e salon de la marine, hein, qui avait un thème qui était finalement guidé par l'actualité du musée de la marine qui allait fermer pour une rénovation majeure, un hyper entretien comme on dit dans le jargon industriel maritime, et le thème était les trésors qu'il recèle, etc. Et quand vous êtes photographe et que vous avez une œuvre à proposer, donc une photographie, sur un thème assez ténu pour la photographie, bah, c'était pas évident. Donc ça n'a pas fonctionné, j'ai même pas passé le cut, j'ai pas été exposé. Et donc cette frustration est née un regain de motivation. Et puis finalement, quelques années plus tard, en 2018, 45e salon de la marine s'annonce. On guette ça, on a le ventre un peu noué, le palpitant qui monte. Et puis on se dit, allez, faut y aller. Cette fois-ci, essaye de pas faire un hors-sujet.
Donc il y a quoi ? Il y a une œuvre à sélectionner parmi toutes celles que vous avez pu photographier.
Exactement, et c'est surtout de ne pas faire un hors-sujet, c'est-à-dire que vous lisez bien le sujet et vous essayez de répondre pas « regardez ce que je fais, c'est ça qui est bien », c'est « regardez ce que je fais au regard du thème qui est proposé ». Et là, en l'occurrence, le thème, c'est vraiment sur le 400 ans d'art et de combat, me semble-t-il. Donc c'est assez large, et en même temps, ça doit servir de manière opérationnelle. Moi, je trouve que le message envoyé par la marine, par le chef d'état-major de la marine, est tout à fait clair, percutant, est utile, c'est-à-dire qu'rien que le salon est les candidatures qui vont naître seront déjà utiles au rayonnement et à faire savoir que cette marine est en action et c'est une marine de combat.
Donc c'est un dossier sur lequel on répond à une thématique via un cliché et on présente son cliché avec un argumentaire de une ou plusieurs pages.
Alors, il y a un dossier thématique auquel on répond pour essayer d'exposer au Salon de la Marine. C'est là où c'est pas évident à comprendre la subtilité. Et ensuite, dans ce fameux dossier, vous pouvez choisir de postuler ou non. Je connais des artistes extrêmement doués qui avaient toutes les chances d'intégrer le corps des peintres officiels de la marine et qui ne se sentaient pas prêts, en fait. Alors, c'était peut-être très présomptueux de ma part de me sentir prêt. En tout cas, j'avais très envie. C'est une deuxième partie dans le dossier où là, effectivement, vous devez présenter non seulement votre œuvre pour le salon, mais aussi un portfolio d'œuvres, de l'expliquer, de l'argumenter, de présenter un CV artistique, voire même des recommandations. Et en espérant que tout soit lu, que vous soyez bien exprimé pour que votre message soit suffisamment clair pour être susceptible d'être intégré. Et donc, vous avez un jury qui se réunit. Il a deux fonctions, ce jury, en tout cas de ce que j'en sais. C'est la première de dire, ben voilà, vous allez gagner la médaille d'argent, la médaille d'or, la médaille du Salon de la Marine, ce qui ne veut pas dire forcément que vous allez être peintre officiel de la marine. Ça, c'est la première des délibérations qui est opérée. Et la deuxième, qui est plus délicate, c'est de dire parmi tous ces artistes, une trentaine, eh bien, vont être nommés les nouveaux peintres officiels de la marine. Et là, bah, vous avez un débat qui s'engage entre 8, 10 ou 12 personnes du jury qui ont des horizons et des profils très différents. Certains viennent de la société artistique civile, d'autres sont évidemment du corps des peintres officiels de la marine, d'autres sont des officiers généraux, d'autres sont des gens de la marine marchande. Et tout ça fait un mélange qui finalement permet d'éviter un écueil qui serait celui du copinage ou du lobby ou de je connais un tel, etc. Alors le conseil que je donne, finalement, qui moi m'a été donné et qui s'est avéré tout à fait utile, c'est faites-vous connaître, faites-en un petit peu plus que pas assez, puisque plus vous aurez de bienveillance des gens qui sont de marine d'active, donc de la marine actuelle, ou de la marine de ce qu'on appelle de deuxième section, ou les gens qui sont plus dans les cocktails que sur les navires de combat, eh bien, plus vous mettez des chances pour accélérer votre démarche et faire en sorte qu'elle soit fructueuse. Mais ça ne représente peut-être que 15 ou 20%. Donc si vous ne l'avez pas, ce travail de lobby, hein, c'est un vilain terme, mais il s'agit de cela, ça ne marchera pas. Mais si vous avez que ça, ça ne marchera pas non plus.
Donc c'est intéressant, ça permet de créer aussi, d'une certaine manière, le facteur chance, entre guillemets.
Exactement.
Et de l'influencer.
Et de l'influencer.
Et vous êtes membre depuis 2021. Ça permet aussi de parler un peu de votre démarche en tant que photographe. Vous êtes, on l'a dit maintes fois, vous êtes peintre officiel de la marine, photographe, vous photographiez des bateaux, mais pas que. Vous avez fait des photographies avec notamment les marins du ciel. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que vous définiriez justement la patte Evan Le Bourdet ?
Alors ça, c'est une question extrêmement difficile. En fait, moi, je pense que je ne suis pas un très bon technicien autour de la photographie. Je suis passionné de photographie et c'est vraiment un défi renouvelé à chaque fois. Je veux faire cette image que j'ai en tête, que j'ai en fantasme. J'ai cette idée qui s'avère souvent infructueuse et puis une autre idée naît de l'idée. Et ça, c'est le caractère chance ou opportuniste, entre guillemets. Donc, je ne suis pas un grand technicien. En revanche, il y a toujours ce côté un peu je joue ma vie à chaque sujet, chaque nouveau sujet. Et quand je dis je joue ma vie, ça veut dire il faut que je revienne avec l'image, quoi. C'est pas possible. C'est comme si je passais mon bac ou mon brevet des collèges à nouveau pour la première fois à chaque fois que je fais un shooting. Et ça, ça me quitte pas. J'ai 47 ans aujourd'hui, donc je pense que ça va me rester. Mais de ce que les gens en disent, mon style est plutôt figuratif. Mais ça, c'est le cas de généralement tous les peintres officiels de la marine. Et au regard de l'art dit contemporain, nous faisons de l'art contemporain, puisque nous sommes contemporains, par définition. En revanche, nos choses sont intelligibles, nos œuvres sont intelligibles, on comprend ce que c'est. Pour la petite partie de ce que je produis, qui va être plus sur des natures mortes, qui travaille sur de la matière, etc., généralement, j'essaye d'accompagner des textes pour essayer de comprendre d'où vient cette démarche de photographier un bout de rouille ou alors de la peinture sur peinture sur peinture sur peinture de rouille avec une ligne de jauge d'un bateau qui va arriver en forme de radoube. Ça me parle parce que toutes ces coques, ces œuvres vives, elles ont connu des dizaines et des dizaines de milliers de milles. Elles ont connu des histoires de dingue, des lumières, des environnements sous-marins. Et donc, je trouve que de photographier une nature morte à ce niveau-là, c'est extrêmement intéressant. Et ça reste figuratif si on l'explique.
Donc figuratif et intelligible. Et alors justement, vous embarquez, Evan Le Bourdet, vous embarquez. Où est-ce que vous trouvez les spots pour prendre vos prises de vue, justement, alors, lorsque vous êtes embarqué?
Alors déjà, en fait, j'ai beaucoup de chance. Je remercie toutes les personnes sur mon parcours qui ont été bienveillantes, qui m'ont accueilli, qui ont montré de l'intérêt à ma démarche et qui ont permis des embarquements. Donc qu'elles soient toutes et tous remerciées. Il y a eu beaucoup de stress, de doutes, de choses. Quand on photographie un bateau noir, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, qu'on ne sait même pas que c'est interdit, voilà, ça vaut quelques règlements de compte et explications. Et puis après, finalement, on rencontre une famille et puis même on est adopté par cette famille. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais effectivement, j'ai beaucoup de chance parce que, et ça s'est accéléré depuis que je suis peintre officiel de la marine, et je ne le pensais pas, j'ai pu aujourd'hui embarquer, je pense, ou rencontrer des sujets de la marine nationale et de la maritimité en général française, bien plus que peut-être 99% des marins de la marine nationale. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai volé dans peut-être 4 ou 5 types d'aéronefs des marins du ciel, à plusieurs reprises. J'ai pu embarquer dans tous les types de sous-marins nucléaires français contemporains. J'ai été aux côtés de ceux qui étaient en train de mourir, les classes Agosta. J'ai pu faire des immersions aux côtés des nageurs de combat du commando Hubert, qui sont l'élite des forces spéciales mondiales. J'ai pu embarquer 2 fois sur le porte-avions Charles de Gaulle. Je ne sais pas si vous imaginez, mais vous arrivez au pied du bateau. De nuit, il y a des zincs sur le pont. Vous êtes à Toulon, vous passez les contrôles de sécurité. Vous arrivez, vous avez passé 10 jours là-dessus. Là, vous découvrez des univers que peu de monde, finalement, découvre. Ensuite, vous repartez sur des embarquements de type FREM, vous croisez les nouvelles frégates de défense et d'intervention Amiral Renard en mer d'Iroise, vous êtes au contact de la maritimité avec les phares, avec la faune. Donc finalement, c'est une grande chance et je mesure finalement la faculté qu'il faut développer à dire non. Parce que si vous vous perdez dans tous les sujets qu'on vous propose, vous vous perdez tout simplement et les journées ne font que 24 heures et ça a été un véritable tournant en 2021 puisque tout s'est accéléré.
Pour revenir un peu aussi sur le processus de captation, vous en avez brièvement parlé à l'instant, comment est-ce que vous créez vos photos? Vous avez dit des fois partir avec une image, une obsession, est-ce que c'est systématique?
Oui, mais souvent c'est déceptif et on trouve autre chose dans sa besace. Donc c'est soit l'accident photographique, soit le sujet qui arrive ou la lumière sur un sujet à ce moment-là. Et le talent du photographe, je ne parle pas du mien, en général, c'est de savoir le capter avec le bon réglage technique à ce moment-là. Puisque les différents cycles, justement, par rapport à votre question de la photo, moi je pense qu'il y en a 4. Le premier, c'est en effet l'un des plus importants. Les 4 sont assez équivalents en matière d'importance. Le premier, ça va être de l'idée, l'originalité, la composition. Si vous n'avez pas ça, si vous êtes un excellent technicien sans imagination, généralement, ça ne va pas faire long feu du point de vue de la photo. Ensuite, quand on a cette phase qui est passée, pour faire une grande image, une grande photographie, il faut la partie technique. Sans matériel, vous ne faites rien. Pas grand-chose. Il y en a qui vont vous dire, oui, vous savez, la lomophotographie, toutes ces choses-là, etc. C'est génial. Mais là, on est plus de l'ordre du conceptuel. Pour faire une très belle photographie figurative, quand on a des choses à raconter, qu'on veut ramener l'émotion, à mon sens, du bon matériel, c'est indispensable.
Ça, c'est pour le deuxième, justement, processus. Il y en a quatre.
La troisième, ça va être la post-production. Alors ça, c'est un vaste débat. J'ai entendu aussi sur mon travail des choses en disant, tiens, Photoshop, etc., ce qui est plutôt péjoratif comme jugement. La démarche entre l'argentique et le numérique, elle est commune. Donc cette étape du développement, elle est très importante, c'est la troisième.
Mais donc, dans cette troisième étape du processus de captation, il y a une phase de post-traitement, finalement, quand même, sur des logiciels pour ajuster certaines couleurs, tout simplement.
La chambre noire est numérique aujourd'hui, et généralement, il faut laisser reposer la pâte dans les deux cas, revenir, regarder, avoir un très bon écran ou plusieurs écrans calibrés pour pouvoir, justement, avoir vraiment cette pâte qui s'installe, cette notion sérielle, et de choisir le cliché qui va faire que vous y passez. Alors quand il y a une lumière magnifique, l'instant dingue, etc., bah la photo, il n'y a rien à faire. Elle est bien dans son ratio, on y va. Et certaines photos nécessitent parfois jusqu'à 4-5 heures de léger traitement.
Et le quatrième
Et le quatrième, bah, c'est la matérialité de la photo, et c'est bien ça ce qui est le plus dur. Et ça, je le pratique depuis
moins longtemps. Alors, c'est-à-dire quoi la matérialité ? Parce que c'est une notion centrale quand même dans la photographie, c'est-à-dire qu'il s'agit tout simplement d'imprimer la photo. Et c'est au moment de l'impression qu'on choisit, justement, vous allez en parler, mais le grammage, etc.
Alors, oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 99,9% des photographies qui sont produites sur cette Terre, et aussi dans l'espace, hein, bonjour à Thomas Pesquet, qui nous a régalé de ses photos pendant ses embarquements, 99,9% ne verront jamais la matérialité, une existence qui physique. Dépasserait... le cadre des réseaux de blogs, d'articles numériques, évidemment, etc. Donc la matérialité d'une photo, c'est servir, pourquoi pas, pour un article, pour une carte de vœux. Ça, c'est parmi les utilisations les plus basiques, mais aussi pour des expositions, des livres, ou peut-être, avec un peu de chance, pour quelques photos rares élues par an, des galeries d'art, ou alors encore mieux, des musées. Ça, c'est un peu mon ordre hiérarchique. Mais...
Et l'avantage pour vous, c'est que vous avez connu tout pour l'instant. Et c'est intéressant, ça permet aussi d'aller un peu plus loin justement dans votre démarche artistique. Evan Le Bourdet, je rappelle que vous êtes peintre officiel de la marine et photographe. Vous faites justement des clichés en mer et j'aimerais qu'on parle avec vous de la spécificité des prises de vue en mer. C'est-à-dire, quel défi est-ce que vous rencontrez lors des prises en mer ? Vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure en mentionnant les quatre étapes du processus de captation. Quel autre défi ?
Déjà, le matériel, n'achetez pas mon matériel d'occasion. De toute façon, je ne le revends pas. Généralement, il rend l'âme au bout de plusieurs années, ce qui leur vaut le titre de robustesse et de rusticité absolue, puisque nous sommes dans un environnement hostile. La mer est un environnement hostile. Quand on est en mer sur un bateau sous ou sur la surface, on n'est pas les bienvenus, on n'est pas chez nous, et la mer se charge elle-même de le rappeler bien souvent. Donc ça, c'est le premier point de vue. Le deuxième, c'est la spécificité des sujets en eux-mêmes. Vous avez la possibilité d'être à la fois embarqué, d'être extérieur à votre sujet, de faire un sujet depuis un autre sujet, ou d'être sur la côte, sur le littoral, pour aller chercher des scènes, etc. Plus spécifiquement, le vrai défi de la photo maritime, ça va être quand les sujets bougent. Je prends l'exemple d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui va rentrer de mission, donc de 70 jours en moyenne de mer, ou qui va partir en mission. Votre photographie, évidemment, est anticipée. Enfin, quand je dis évidemment, ça n'a pas toujours été évident. Encadrée et observée. Et vérifier. Le sous-marin, ça mobilise quand même juste la dissuasion nucléaire française. C'est un départ en patrouille. Il relaye un autre sous-marin en mer. Donc, vous n'êtes pas la priorité en matière de photographie. Et c'est bien heureux. Le sous-marin, il va une vingtaine de kilomètres heure pendant quelques heures. Et au départ, il y a des alignements sympas, par exemple, à faire. Vous en parliez en préambule d'un phare. Un phare, ça fait 20-30 mètres de haut. Il est souvent à 3-4 kilomètres. Le SNLE, ça fait 14 000 tonnes, mais on n'en voit que l'équivalent de 1000 en surface. C'est la partie émergée de l'iceberg. Et j'aime beaucoup shooter, photographier avec des téléobjectifs. Les téléobjectifs, c'est ce qu'on appelle des objectifs à partir de 300, 400 mm jusqu'à 800, 900 mm, voire 1000 mm.
Donc c'est des objectifs qui permettent de photographier de loin.
Exactement, et qui permettent non seulement de photographier de loin, mais aussi d'aligner des sujets qui sont rarement alignables, à savoir mettre en décor un phare éloigné de plusieurs kilomètres d'un sujet qui, lui, est sur un plan intermédiaire.
Donc, ce qui permet aussi de rapprocher les sujets entre eux.
Exactement. Ce qu'on appelle la profondeur de champ, est-ce qu'elle est hyper focale, c'est-à-dire on voit net de bout en bout, ou est-ce qu'on va créer un effet de sujet très net sur le plan du milieu et d'avoir des choses un peu floues derrière et en avant-plan. Donc ça, c'est la patte du téléobjectif. Et je crois, à ma connaissance, je suis l'un des rares au monde, si ce n'est le seul, à shooter au 800 mm à main levée sur un petit Zodiac, sur un sujet mobile, par des météos qui ne sont pas tout le temps clémentes.
Donc ce qui est intéressant, c'est que là, par rapport justement au défi du maritime, c'est donc faire attention au matériel et aussi prendre en compte toutes les spécificités en termes de mouvement des sujets. Ça permet aussi de passer à la dernière partie de cette interview. Ce qui note et ce qui dénote aussi dans votre démarche, c'est finalement l'utilisation de plusieurs supports pour valoriser vos clichés. Je vais citer quelques livres que vous avez produits. Vous avez produit l'ouvrage « Sub l'immersion »,« Bois et marine »,« Choses maritimes ». Vous avez aussi exposé au Musée national de la marine de Paris différents supports. L'idée, c'est de comprendre un peu comment est-ce que tous ces supports s'inscrivent dans votre démarche photographique.
Alors, je pense que c'est un cercle vertueux. J'ai encore une fois une grande chance, c'est celle qu'on me donne régulièrement les moyens, je ne parle pas de moyens financiers, les moyens d'exprimer mon art dans sa matérialité. Et ça, on en revient toujours à, voilà, ça y est, ça existe, c'est installé, vous l'avez souligné, au Musée national de la Marine, au Trocadéro. Enfin, je peux vous dire que l'émotion que j'ai eue quand j'ai vu la bâche se dérouler sur la place du Trocadéro avec mon nom, la photo Mobisub en grand, ben ça à un moment, vous vous dites, ouais, super, là, ça...
Il y a un gap qui a été franchi.
Il y a un truc, là.
Mais donc, ça permet d'illustrer la matérialité de la photo, ces différents supports.
Exactement. Et donc, ça, c'est une grande chance, puisque ne serait-ce qu'au Musée de la Marine, il y avait des fine art sous forme de tableaux traditionnels sur chevalet, mais aussi des formats géants assez immersifs, sur lesquels on peut mesurer le gigantisme de ces bateaux, là, construits, entretenus par Naval Group. Enfin, c'est juste fantastique. Et à côté de ça, de se retrouver à exposer ses sous-marins au Yacht Club de Monaco avec un commandant de sous-marin pour raconter la formidable aventure sous-marine, c'est fantastique. C'est une autre forme de matérialité. C'est-à-dire que vos photos vous appartiennent plus. Elles sont le support à d'autres formes de rayonnement et autres. Et ça, c'est fantastique parce que là, on touche du doigt ce qu'on disait tout à l'heure sur le forme de à quoi sert un peintre officiel de la marine. Alors, hormis on fait de vous un officier de marine, vous rentrez en équivalence de grade, puisque nous ne portons pas le grade, mais nous rentrons en tant que lieutenant de vaisseau, 3 galons, rendez-vous compte. Et ensuite, au bout de 9 à 10 ans, vous êtes promu capitaine de corvette et donc nommé à vie. Cela oblige et cela est très prestigieux. Il y a un autre prestige aussi dont on parle souvent et dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre une petite encre marine à la suite de sa signature. Ben ça, je peux vous dire, ça rend fou. Ça rend fou parce que il n'y a pas une loi qui interdit de mettre une encre marine et rien ne m'aurait empêché de mettre une encre marine avant d'être nommé peintre de la marine derrière mon nom. Mais pour les gens qui savent, les gens de mer et autres, ça serait une insulte justement à cela et c'est réservé au corps des peintres officiels de la marine.
Un dernier mot peut-être sur votre livre, justement vous l'avez cité, Sublimmersion, livre publié en septembre 2024 et qui a reçu le 18 juin 2025 un prix, celui de l'Académie de marine. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir eu votre travail qui a été récompensé par des académiciens?
C'est énorme, c'est un immense honneur. Tout de suite, quand on parle de l'Académie de Marine, en fait, je pense aux 4 rues royales. 4 rues royales, c'est le garde-meuble. Et moi, j'ai découvert toute cette histoire dans un merveilleux livre qui est écrit par l'amiral Bellec, peintre officiel de la marine, écrivain de marine, amiral, qui nous régale de sa science, de son savoir sur l'histoire, sur l'art, sur toutes ces choses-là. Et donc, ce livre s'appelle « De la Royale à la Marine de France ». Et donc, il y a de longs, longs passages sur ce qu'on appelait le garde-meuble et toute l'histoire de ce lieu complètement, complètement fou, où l'Académie de Marine garde son siège. Et je pense à, finalement, ces 400 ans d'histoire, etc. Et donc, ce sont les légataires dignes de porter toutes ces notions autour de la maritimité française. On parlait tout à l'heure de la marine marchande, de la marine nationale, et donc la maritimité française est portée et encadrée par ces académiciens. Donc recevoir le prix du beau livre de l'Académie de Marine, pour moi, c'est un immense honneur. Je ne m'y attendais absolument pas et j'en éprouve une très très grande fierté.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Evan Bourdet. Je rappelle que vous êtes photographe et peintre officiel de la marine. Vous êtes également réserviste citoyen de la marine nationale. Pour retrouver tous vos clichés, rendez-vous sur votre Instagram ou sur votre site internet evan-photo.fr. D'ailleurs, pour celles et ceux qui seraient tentés de candidater au Salon de la Marine 2026, je rappelle que les inscriptions pour candidater à ce salon se terminent en septembre 2025. Retrouvez tous les détails pour candidater en description de ce podcast et aussi sur les réseaux sociaux du CESM. À tous nos auditeurs, si ce podcast vous a plu, eh bien, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à nous rejoindre sur LinkedIn pour rester à jour de toutes nos actualités. Merci d'être chaque jour de plus en plus nombreuses et nombreux à rejoindre notre équipage. Ça nous motive vraiment à continuer de faire des interviews comme celle-ci. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 7h pour un nouvel épisode sur Horizon Marine, la chaîne des podcasts de la mer, du fait maritime et de ses acteurs, une production du Centre d'études stratégiques de la Marine.